Bonjour, aujourd'hui 1429, Jeanne d'Arc.
Tu portes l'habit d'homme et les cheveux coupés. Ce n'est pas conforme à ta condition. C'est condamné par l'apôtre.
Je ne sais rien de tout ça. J'ai pris l'habit qui convenait pour ce que je dois faire.
Deux mille ans d'histoire. Le 13 février 1429, une paysanne de Domrémy quittait la Lorraine accompagnée de 6 hommes d'armes. C'était le début d'une épopée qui, en 2 ans à peine, allait faire d'une bergère de 17 ans un des personnages les plus fascinants de notre histoire. Une figure dont chaque Français, à un moment de sa vie, a forcément entendu parler, même s'il ne se souvient pas toujours des étapes qui ont conduit Jeanne d'Arc de Domrémy à Rouen, où elle fut brûlée vive le 30 mai 1431, abandonnée de tous, y compris du roi de France qui lui devait pourtant sa couronne. Charles VII, qui 2 ans plus tôt était encore un roi sans pouvoir, dans un royaume occupé par les Anglais. Jamais sans doute en cette fin de guerre de 100 ans, la France n'était descendue plus bas. Jeanne d'Arc allait la relever, poussée, disait-elle, par des voix entendues alors qu'elle avait 13 ans.
Ces révélations, d'où crois-tu les tenir ?
De Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite.
D'où tiens-tu que c'est eux ?
Ils me l'ont dit. Saint-Michel est venu le premier.
Comment as-tu reconnu que c'était Saint-Michel qui te parlait ?
Il me parlait le langage des anges.
Que t'enseignait-il ?
Il me racontait la pitié du royaume de France. Il me disait de quitter mon pays et de venir en France. Et que je me porterai au secours du dauphin de France.
Pourquoi appelles-tu le roi dauphin et non roi ?
Je n'appellerai pas roi tant qu'il ne sera pas couronné et sacré à Reims, où je dois le conduire.
Philippe Contamine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, et vous connaissez bien le personnage dont nous allons parler aujourd'hui. L'aventure extraordinaire qui est celle de Jeanne d'Arc, et qui est peut-être d'autant plus extraordinaire que non seulement le personnage est fascinant, mais la situation dont elle sort la France au moment de cette guerre de 100 ans, est une situation qui est effectivement très compliquée. Il y a 2 rois, il faut le rappeler, en France à l'époque.
Oui, effectivement, il y a 2 rois à cette époque. Il y a 2 rois qui se prétendent l'un et l'autre légitimes. Autrement dit, il se trouve que quelques années auparavant, il y a eu la folie du père de Charles VII, Charles VI. Et à la faveur de cette folie, il y a eu une guerre civile au sein de la famille royale. Et ça s'est terminé par le meurtre du duc de Bourgogne, Jean sans peur, sous les yeux et sans doute par ordre du dauphin, le futur Charles VII. Alors, du même coup, les Bourguignons se sont retournés vers le roi d'Angleterre, Henri V, et puis après Henri V, son fils Henri VI. Ils ont conclu une alliance, et le résultat, c'est qu'il y a eu le traité de Troyes de 1420, par lequel le roi d'Angleterre devenait en même temps roi de France. Donc c'est un système de double couronne.
Et alors, le roi.
Et à côté de cela, eh bien, il y a le fils de Charles VI, Charles VII, qui prétend avoir été indûment déshérité et qui s'affirme, lui aussi, roi de France légitime sous le nom de Charles VII.
Charles
Donc
VII,
on a 2 rois.
Oui, Charles VII, auquel une partie de la France, dont la Lorraine, d'où vient Jeanne d'Arc, est restée fidèle, puisque c'est de là qu'elle part.
La Lorraine était en dehors du royaume de France, mais la région de Domrémy, oui.
Et vos couleurs,
d'où Jeanne
elle part.
Et Jeanne d'Arc dit même que dans son village de Domrémy, il y avait un seul partisan du traité de Troyes, un seul bourguignon, et que tous les autres étaient du côté de Charles VII, et évidemment elle-même, ses parents, sa famille. Voilà.
Donc elle entend ses voix, elle arrive à convaincre effectivement le sieur de beaucoup de Vaucouleurs de partir, de lui donner justement une toute petite troupe de gens.
Robert de Baudricourt. Oui. Et donc elle a une force de persuasion qui déjà se manifeste.
Alors elle va se manifester cette force de persuasion de manière extraordinaire puisque partie de Vaucouleurs, elle arrive donc le 6 mars 1429 à Chinon, et là, elle rencontre Charles VII. Il faut savoir quand même que Charles VII s'était un peu dissimulé, en se disant « mais qu'est-ce qu'il vient me voir ?» Il était au milieu de tous ses courtisans, et elle le reconnaît aussitôt, et Charles VII lui demande ce qu'elle vient faire.
En tout cas, c'est la légende, et très rapidement, ce bruit s'est répandu, et elle a réussi à identifier le roi.
Alors, le dialogue entre Charles VII et Jeanne d'Arc.
Que veux-tu ? Qu'attends-tu de moi ?
Très noble, seigneur dauphin. Je suis venue et suis envoyée de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume.
Comment t'appelles-tu ?
J'ai nom Jeanne la Pucelle. Et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacrée et couronnée à Reims. Et vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans. Que je vous conduise à Reims.
Philippe Contamine, on a du mal à comprendre quand même comment un roi de France, même déchu comme Charles VII, puisse accorder sa confiance, car effectivement, il va donner à Jeanne d'Arc les moyens d'aller délivrer Orléans, qui est assiégé, mais comment est-ce qu'il a pu lui faire confiance ? C'est-à-dire, après tout, c'est qu'une paysanne de 17 ans, c'est assez extraordinaire.
Assez extraordinaire, et donc on a bien du mal à l'expliquer. Mmh. On le constate. Je crois qu'il faut, disons, comprendre l'atmosphère du temps. Bon, tous ces milieux de cour étaient des milieux extrêmement blasés, cyniques, des politiques. Mais malgré tout, nous sommes à une époque où on vit sous le regard de Dieu. Et du même coup, on peut très bien admettre, dans la mentalité du temps, que Dieu envoie quelqu'un, miraculeusement, pour sauver ce qu'on appelle à l'époque le Saint-Royaume de France. Alors on a longuement hésité, on l'a interrogé, on l'a sondé, on l'a observé, nuit et jour, son comportement, ses paroles. Et finalement, on s'est dit, mais il est possible que Dieu soit derrière elle. Et du même coup, il y a cette rencontre. Et étant donné la force de conviction de Jeanne d'Arc, c'est mystérieux, mais Charles VII, qui était pourtant assez sceptique, a accepté, pour ainsi dire, de l'utiliser et de la consulter.
Il était sceptique, mais n'empêche qu'il l'a interrogé, il l'a fait interroger à Poitiers, ouais, par des théologiens. Et donc il l'envoie à Orléans. Pourquoi est-ce qu'Orléans était aussi important ?
Bien, parce que Orléans, c'était un petit peu une clé du royaume de France. Tout le nord du royaume de France était conquis par les Anglais, par ce qu'on appelle la double monarchie. Et donc le sud était plus ou moins, sous le contrôle de Charles VII, et encore il n'avait pas beaucoup de force, et un verrou qu'il fallait faire sauter, c'était Orléans. Parce que si Orléans sautait, eh bien à ce moment-là, les Anglais pouvaient aisément franchir la Loire, et Charles VII n'avait plus qu'à se réfugier en dehors du royaume.
En tout cas, elle entre à Orléans quelques jours avant de délivrer la ville, et c'est à ce moment-là que commence une légende, la légende entretenue par tous ceux qui ont rencontré Jeanne d'Arc, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, donc le 29 avril 1429, en entrant dans Orléans, Jeanne fait vraiment grande impression. Écoutez ce récit d'un Orléanais, Jeanne d'Arc apparaît là déjà comme un personnage surnaturel, seul capable de délivrer la ville des Anglais. Elle entra dans Orléans, armée de toutes pièces, montée sur un cheval blanc. Elle faisait porter devant elle son étendard, qui était pareillement blanc, sur lequel il y avait deux anges, tenant chacun une fleur de lys en leurs mains. Vinrent la recevoir les gens de guerre, les bourgeois et les bourgeoises d'Orléans, portant grand nombre de torches et faisant elle joie, comme s'ils avaient vu Dieu descendre parmi eux. Ils se sentaient tous réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur disait être en cette simple pucelle. Il y avait merveilleuse foule et presse à la toucher ou au cheval sur lequel elle était. D'autres textes nous montrent son courage au combat et le charisme qu'elle exerce déjà sur ses troupes. Jean d'Alençon, par exemple, est un de ses compagnons d'armes. Comme il lui semblait qu'il était prématuré de monter aussi rapidement à l'assaut, Jeanne lui dit « Ne doutez pas, c'est l'heure qui plaît à Dieu ». Et à un autre moment de découragement, elle lui dit « Ah, gentil duc, as-tu peur ? Ne sais-tu pas que j'ai promis à ta femme de te ramener sain et sauf ?» Et Jean d'Alençon admirait fort les paroles de Jeanne, prises comme des prédictions. Alors ce même homme nous la décrit, montant elle-même à l'assaut. Jeanne était sur une échelle, tenant son étendard à la main, qui reçut un coup. Elle-même fut atteinte à la tête d'une pierre qui abîma sa chapeline, et elle fut jetée à terre. En se relevant, Jeanne dit à ses gendarmes « Ami, ami, notre sire a condamné les Anglois. À cette heure, ils sont nôtres. Ayez bon cœur !» À cet instant, la ville fut prise, les Anglois s'enfuirent, les Français en tuèrent plus de 1100. est bien concrète donc, nous venons de le voir, Jeanne d'Arc est aussi bien une femme et bien charnelle aussi. Parfois à l'armée, raconte encore Jean d'Alençon, il coucha avec Jeanne et les gendarmes dans la paille. Il vit quelquefois Jeanne qui se préparait et quelquefois il voyait ses seins qui étaient beaux. Pourtant, il n'eut jamais d'elle concupiscence charnelle. Perceval de Boulainvilliers, un autre compagnon d'armes, nous parle de Jeanne lui aussi. Cette pucelle est d'une élégance convenable. Elle a l'attitude d'un homme, elle parle peu et montre dans ses dires et faits une merveilleuse prudence. Elle a la voix gracieuse d'une femme, mange peu, prend peu de vin. Ce qu'elle n'aime pas, ce sont les réunions nombreuses et les conversations. Elle pleure facilement, mais montre un visage joyeux quand elle porte l'armure. Elle peut rester 6 jours et 6 nuits complètement armée. La poétesse Christine de Pisan, retirée dans un couvent depuis 11 ans, reprend courage devant les exploits de Jeanne et lui consacre même un long poème dont je vous dis un extrait. « L'an 1429 reprit à luire le soleil, dit-elle. Il n'est homme qui le put croire, que Dieu, par une vierge tendre, ait dès lors voulu, sur France, si grande grâce étendre. Voici femme, simple bergère, plus preconque aux hommes fut à Rome, jamais parlé d'aussi grande merveille. »
Philippe Contamine, ouais, des textes qui inspirent pas mal de réactions, peut-être que vous en avez. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a le sentiment que c'est moins, finalement, les vertus guerrières de Jeanne d'Arc qui sont célébrées. Car il faut rappeler que je crois qu'elle n'a jamais tué personne. Son arme, c'était un étendard, essentiellement.
Elle l'a dit, il faut la croire. Ouais,
et que le moral, au fond, qu'elle donne aux Français, c'est ça, au fond, la principale vertu de Jeanne d'Arc.
Tout à fait. Je pense qu'elle avait un courage extraordinaire, une détermination sans faille. Mais ce qui me frappe dans ces textes, dans l'un de ces textes en particulier, c'est celui de Jean d'Alençon, qui admirait fort les paroles de Jeanne prises comme des prédictions. Mmh. Il faut bien comprendre qu'elle a été comprise comme une prophétesse qui annonçait l'avenir, qui du reste avait été plus ou moins annoncée par des prophéties réinterprétées, et qui annonçait l'avenir et qui disait « Ces prophéties, je vais moi-même les réaliser ». Alors évidemment, il y a toute cette dimension religieuse qui est extraordinaire et qui fait comprendre la popularité de Jeanne auprès de toutes gens, les simples gens naturellement, qui ont vu en elle Dieu descendu parmi eux. Pour les délivrer de la guerre, pour les délivrer du mal. L'angélique, on l'appelait ainsi.
Et puis le culot aussi, c'est ça qui est assez fascinant. Elle est donc à Orléans, qu'elle va bientôt délivrer le 8 mai, et puis elle lance aux Anglais des sommations. Alors ça les fait bien rigoler les Anglais, mais ouais. Cette petite paysanne en armure qui leur dit « Vous Anglais, qui n'avez aucun droit sur ce royaume de France, le roi des cieux vous ordonne et mande par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forteresses et retourniez dans votre pays. Voilà ce que je vous écris pour la 3e fois. Et je n'écrirai pas davantage, signé Jeanne la Pucelle. » Bon, les Anglais ne prennent pas ça très au sérieux, n'empêche qu'ils quitteront
mais
Orléans.
C'est extraordinaire, même vis-à-vis du roi, oui. Parce qu'on a l'impression que c'est sa guerre. Hein, elle défie les Anglais. Après tout, la guerre de 100 ans, ça a duré depuis des années et des années. Et elle lance le défi elle-même. La guerre, elle est chef de guerre. Elle se présente comme chef de guerre. Et finalement, parce que la guerre, c'est la guerre de Dieu.
Donc Orléans, en tout cas, est libéré le 8 mai 1429. Mais la mission de Jeanne n'est pas achevée. Il faut qu'elle fasse sacrer Charles VII à Reims. Pourquoi est-ce que c'était aussi important?
C'était très important parce que c'était la dimension surnaturelle de la royauté française. Un roi... pour le peuple, je ne dirais pas constitutionnellement, mais pour le peuple, était roi lorsqu'il avait été sacré et couronné. Et c'est ce qui s'est passé le 17 juillet 1429, grâce à Jeanne d'Arc.
Thank you.
France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
C'était Messe de l'homme armé de Guillaume Dufay, interprété par la Capella Real de Catalunya et l'ensemble Hespérion, une musique de l'époque de Jeanne d'Arc et de cette aventure extraordinaire qui n'a duré que 2 ans, de 1429 à 1431. Les autres événements de l'actualité, Stéphanie.
En Italie, à Florence, le peintre Masaccio introduit la perspective dans ses fresques. C'est le début de la Renaissance, un siècle plus tôt qu'en France. Au Portugal, l'infant Henri, dit Henri le Navigateur, passionné de géographie et d'astronomie, lance de grandes explorations vers l'Afrique. Au Mexique, depuis 1428, Itzcoal est roi des Aztèques. C'est alors la plus grande puissance d'Amérique centrale. En 1430, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, institue l'ordre de la Toison d'Or. En 1431, en Bohême, l'empereur germanique Sigismond doit faire face à l'insurrection hussite, c'est-à-dire les adeptes de l'hérésie de Jean Hus. Et c'est de 1430-1431, on ne sait pas exactement, que l'on date la naissance du poète François Villon.
Et puis le 17 juillet 1429, je reviens un peu en arrière, donc 4 mois à peine après Chinon, vous le disiez, Philippe Contamine, Charles VII était donc couronné et sacré à Reims en présence de Jeanne d'Arc.
Vivat Rex in Aeternum.
Allons, relève-toi.
Gentil roi, c'est fait. Le plaisir de Dieu est exécuté. Vous voulez que je lève le siège devant la ville d'Orléans et que je vous amène en cette cité de Reims pour recevoir votre Saint-Sacre. J'ai montré que vous êtes le vrai roi. Celui auquel le royaume de Dieu doit appartenir.
Jeanne. Relève-toi, je t'en prie.
Alors Philippe Contamine, ce qui est assez affreux, c'est que juste après ce sacre, alors là, commence une autre période, assez triste, une période de solitude en fait, immense, dans laquelle il se trouve, puisque même le roi va l'abandonner.
Oui, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au fond, elle aurait pu rentrer à Don Rémy. Elle avait fait l'essentiel de sa mission. Et par la suite, il y a eu toute une historiographie selon laquelle Jeanne d'Arc a outrepassé sa mission et que c'est pour ça qu'elle a été, disons, punie par Dieu. Oui. Bon, en fait, Jeanne d'Arc avait dû prophétiser d'autres choses, prophétiser d'autres choses, et en particulier, premièrement, la reprise de Paris. Deuxièmement, la libération du duc d'Orléans, qui se trouvait en Angleterre depuis un certain temps. Et puis, donc, il est probable qu'autour de Jeanne d'Arc, les conseillers de Charles VII souhaitaient s'arrêter là, regagner la Loire. Jeanne d'Arc a voulu aller sur Paris. Il y a eu l'échec sous Paris qui a été absolument décisif. Puisque c'est à partir de ce moment-là que Jeanne d'Arc a connu ce drame de la solitude.
Elle est capturée donc par les Bourguignons, devant Compiègne en mai 1430. Les Bourguignons la livrent aux Anglais qui veulent absolument donc faire ce fameux procès. Pourquoi fallait-il faire le procès de Jeanne d'Arc au lieu de la garder captive?
Oui, tout à fait. C'est un gros problème. Eh bien, parce qu'il s'agissait de disqualifier Jeanne d'Arc non point pour des raisons politiques, mais pour des raisons religieuses. Et donc, c'est un procès d'église, c'est un procès qui a toutes les apparences d'un procès religieux. Alors, il y a eu toutes sortes de griefs qui lui ont été adressés, sorcières, etc. Bon, la bidôme, que sais-je, mais je crois que le grief essentiel qui a été choisi, repéré par l'évêque Cochon, qui était loin d'être un imbécile, c'est, elle a des voix, mais qui garantit que ces voix sont des voix de Dieu?
En tout cas, vous parlez d'un procès inique, c'est vrai que c'est inique. Elle n'a pas d'avocat, elle se défend seule, elle se défend d'ailleurs très bien.
Elle se défend très bien
face à des théologiens.
C'est un procès d'inquisition, et dans les procès d'inquisition, il n'y a pas d'avocat. Oui. Donc c'est la norme. Donc autrement dit, Cochon a dit « je vais faire un beau procès ». Un beau procès, inique, injuste, mais un beau procès dans les formes.
À huis clos.
Dans les formes, oui. N'est-ce pas? À huis clos, oui, non, puisqu'on a même le procès verbal. Donc, Cochon a réussi, si vous voulez, à à la condamner sur quelque chose qui, pour les théologiens de l'époque, était important, à savoir, c'est l'Église, l'Église visible, les évêques, Louis Cauchon, qui est seul juge de la véracité de ces voix.
En tout cas,
et ça, Jeanne d'Arc refuse. Elle déclame, non, les voix, je les tiens du ciel, et vous n'avez rien à y voir, je le sais de ma conviction la plus intime, j'ai reconnu Saint-Michel, j'ai reconnu Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, et Cauchon dit, tu es hérétique puisque tu ne reconnais pas l'autorité de l'Église. Donc il y a un problème d'autorité de l'Église qui se pose. Elle a été condamnée là-dessus.
Elle évite tous les pièges aussi, elle répond même parfois avec humour. En quelle figure était Saint-Michel quand il vous est apparu, lui demande-t-on, était-il nu? Et elle répond, pensez-vous que Dieu n'ait pas pu le vêtir?
Elle avait de l'humour,
elle a craqué quand même.
Elle a abjuré. Elle a craqué. D'abord, quand on regarde le fond du procès, on s'aperçoit que quelquefois, elle a été piégée. Elle a craqué et donc, dans la solitude, elle a abjuré, c'est-à-dire qu'en apparence, elle a renoncé à reconnaître la divinité, le caractère surnaturel de ses voix. Et puis elle s'est reprise,
elle devient donc relapse, et puis passible du bûcher le 30 mai 1431, donc on vient la chercher dans son cachot.
Dites ce que vous avez à me dire.
Jeanne. Monseigneur, l'évêque de Beauvais m'envoie pour t'induire à vraie contrition et pénitence. Les juges t'ont déclaré relapse. Tu es retombé dans tes fautes. Tu dois mourir aujourd'hui.
Mourir? Aujourd'hui?
Avant midi. Tu seras conduite sur le bûcher pour être brûlée. Ainsi en ont ordonné les juges.
Brûlée?
Ah! Allons, Jeanne! Du courage!
Et donc brûlé le 30 mai 1431 à Rouen. Et finalement, ce roi de France n'a rien fait pour la sauver. Et pourtant, il va la réhabiliter 18 ans plus tard, je crois.
Oui, enfin, 1455-56. Parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il doit, la couronne à quelqu'un qui est hérétique et qui a été condamné par l'Église. Ouais. Et puis alors, son excuse, j'essaie d'excuser Charles VII, c'est qu'il n'avait pas les actes du procès. Ouais. Et c'est simplement en 1450, lorsque la Normandie a été reprise par lui-même, qu'il a eu le procès verbal et qu'il s'est aperçu que Jeanne d'Arc ne l'avait pas, lui, abandonné. Elle n'a jamais abandonné son roi. Et donc, il a compris qu'il fallait faire quelque chose, d'où le procès de réhabilitation, procès en nullité de la condamnation. Je pense même qu'à l'époque, il y a eu un fort courant qui n'a pas abouti, pour la canoniser, pour en faire une sainte.
Mais il faudra attendre 5 siècles, c'est en 1920 seulement qu'elle est devenue sainte.
Voilà, et donc Charles VII ne voulait pas, simplement il voulait la réhabiliter, le pape ne voulait pas en faire une sainte, on le comprend aisément, et la canonisation n'intervient qu'en 1920.
Oui, à une époque d'ailleurs où tout le monde se réclame de Jeanne d'Arc, ou presque. À qui appartient Jeanne d'Arc au fond? Parce que c'est un mythe aujourd'hui dont tout le monde se réclame.
Premièrement, j'estime que ce n'est pas un mythe, c'est une histoire.
C'est une histoire.
C'est une histoire étrange, mais vraie, vraie quand même. Deuxièmement, moi je considère que Jeanne d'Arc appartient, bon n'ayons pas peur des mots, au patrimoine de l'humanité. Parce que vous savez, Jeanne d'Arc, bon, j'ai été directeur de Sainte Jeanne d'Arc à Orléans pendant des années, elle parle à tout le monde, et pas simplement aux Français. La littérature sur elle est une littérature universelle, des Russes, des Japonais, des Américains, voyez-vous. Donc je crois que c'est une très belle histoire qui peut paraître étrange, qui est lointaine, très émouvante, etc. Parce que Jeanne d'Arc est une fille, parce que Jeanne d'Arc est jeune, parce que Jeanne d'Arc est fille du peuple, tout y est. Mais je crois que cette histoire est attachante, et si attachante que finalement les plus grands auteurs ont écrit sur elle de façon émouvante, Peggy, Claudel, Schiller et plusieurs autres.
En tout cas, merci Philippe Contamine de nous avoir également parlé de Jeanne d'Arc, que l'on retrouve également dans un de vos livres, de Jeanne d'Arc aux guerres d'Italie, publié chez Paradigme. Vous êtes également l'auteur de La guerre au Moyen-Âge, publié aux éditions Presse universitaire de France. À lire également l'incontournable Jeanne la Pucelle de Régine Pernoud, publié dans la collection Découverte Gallimard, et puis Jeanne d'Arc de Don Rémy à Orléans, et du bûcher à la légende de Roger Caratini, publié aux éditions de l'Archipel. Vous avez pu entendre des extraits du film Jeanne la Pucelle, réalisé par Jacques Rivette avec Sandrine Bonner et distribué chez Citel Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 2,21 francs la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Riotor et Étienne Misca, documentation Rebecca de Nantes et Christine Abularcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.